France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La baisse d'impôt sur le revenu de 300 euros en moyenne par personne l'année prochaine touchera près de 95% des contribuables français. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, l'assure ce matin dans les colonnes du Parisien. Exercice de communication redondante quelques heures après les confirmations du Premier ministre Édouard Philippe. Lui évoquait hier une hausse moyenne de 2% pour le pouvoir d'achat des Français en 2020. Des annonces qui ont toutefois des conséquences. Le retour à l'équilibre de la sécurité sociale prévue cette année est en fait remise en question par ces mesures d'urgence qui doivent répondre à la contestation des Gilets jaunes. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale l'affirmait dans un rapport hier. Il évoque même un déficit de plus de 3,5 milliards d'euros, loin donc de l'excédent initialement prévu, excédent de 100 millions d'euros. Elle aura duré plus de 7 heures, une prise d'otage hier dans un bar de Blagnac près de Toulouse. Le forcené a finalement été interpellé et les 4 femmes otages libérées. Si le jeune homme âgé de 17 ans a déjà été arrêté une fois en décembre dernier lors d'une manifestation de Gilets jaunes, on ne connaît pas exactement ses motivations. C'est le lieu symbolique des commémorations du 8 mai, l'Arc de Triomphe à Paris, dégradé le 1er décembre dernier lors d'une manifestation justement de Gilets jaunes. Eh bien, l'Arc de Triomphe accueillera ce matin Emmanuel Macron en ce 8 mai, jour anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en ce 8 mai, une manifestation se prépare à Savines dans les Hautes-Alpes. Manifestation contre la privatisation des 450 barrages hydroélectriques. Bruxelles demande cette privatisation. Depuis 12 ans maintenant, la Commission européenne vient même de mettre la France en demeure pour mettre en concurrence ces barrages. L'actualité à l'étranger est l'Iran qui, un an jour pour jour après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, va minorer certains de ses engagements volontaires pris dans le cadre de cet accord. Moins d'engagement donc, dit Téhéran, face à l'incapacité des pays signataires à résister aux pressions américaines. Et puis notez que les bureaux de vote vont ouvrir dans une heure en Afrique du Sud, élections législatives et provinciales dans le pays.
Rendez-vous cet été au Festival d'Aix avec France Musique. Le Requiem de Mozart, mis en scène par Romeo Castellucci, Tosca de Puccini par Christophe Honoré, Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni de Kurt Weill par Ivo Vanov, Jakob Lenz de Wolfgang Ring par Andrea Brett et la création mondiale d'Adam Mahor, Les Mille Endormis. France Musique, une radio de Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, Toufik Hakem vous accompagne pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci de nous être fidèles, même les jours fériés. Mon invité ce matin est Samuel Bijaoui, à l'occasion de la sortie en salle de son documentaire 68, Mon père et les clous. Dans ce film, Samuel Bijaoui filme son père qui, après avoir tenu pendant 30 ans une boutique de bricolage rue Monge à Paris, est contraint de la fermer. Cette quincaillerie a été dans le quartier de Saint-Michel un magasin très particulier, un espace de rencontre dirigé par un intellectuel, ancien maoïste. Et ce film en immersion ne témoigne pas seulement de la fin d'un commerce de proximité, mais aussi de la fin d'une époque, la fin d'une utopie, on peut le dire, et la fin d'un monde. Et donc, avec nous ce matin, le jeune réalisateur, mais aussi Michel Simon du magazine Positif, qui a vu et aimé 68, Mon père et les clous. Bonjour Samuel Bijaoui.
Bonjour Toufik.
Premier film, premier passage à France Culture.
Oui.
Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
Alors, c'est pas votre premier passage à France Culture, on peut le dire, mais vous nous direz aussi ce que vous faisiez en mai...
J'espère que c'est pas le dernier.
Oh, surtout pas. Vous nous direz ce que vous faisiez aussi en mai 68, Le réveil culturel, préparé avec Corinne Amar et Maël Ray, réalisé par Lionel Quentin, avec Philippe Mercher ce matin à la technique, moteur.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Je lui dis, ça me fait rire de le voir toujours derrière un comptoir. Je dis, c'est un mec qui a fait des études supérieures, qui a essayé de faire la révolution, qui a été quasiment un homme de main dans les groupuscules révolutionnaires, et puis qui a fait des films politiques, et puis qui fait qui se déguise en épicier, là, comme ça, marchand de bricolage, etc. En faisant ça sérieusement, mais personne ne peut deviner que c'est un dangereux subversif qui est derrière la caisse. Ça, ça me fait rire. Voilà. De savoir, sans le dire, ça me fait rire.
Bon, et si on commençait par là, par ce portrait que dresse un des meilleurs amis de votre père.
Ben oui, en fait, il est venu comme ça par hasard. Moi, je les faisais pas venir, quoi. Ils passaient, faisaient un petit détour quand ils étaient proches du magasin pour prendre un café. Donc c'est filmé tout dans la spontanéité. J'entends des rires. Donc je me précipite. J'étais pas là quand il est arrivé précisément. Claude Evenot. J'étais à l'atelier au fond. Et puis j'entends des rires. Donc je me précipite. Et je lui demande en effet, qu'est-ce que ça représente pour lui le fait que son pote a ouvert une boutique de bricolage, quoi, et s'est mis à vendre des clous alors que il a eu un parcours quand même plutôt atypique, comme il vient de le dire.
Oui, il aurait pu être prof à l'université, continuer à faire du cinéma, lui qui a commencé à en faire avec Rhys Ivens, ou être polémiste à la radio. Il a préféré ouvrir cette boutique. Et quand vous décidez de filmer votre père, c'est parce que la boutique est déjà menacée, vous sentez que votre père va prendre la retraite. C'est quoi l'idée de départ, Samuel Djaoui? Pourquoi avoir fait ce documentaire?
Alors, en réalité, faut remonter, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé à filmer Bricomanche, donc cette quincaillerie, et je filmais, mais pas tant le lieu, enfin pas tant lui, pardon, que le lieu qui était pour moi incroyable et très attachant. C'était pour capter, on va dire, l'essence de ce magasin de bricolage. Et j'ai filmé comme ça pendant des années, de façon très sporadique et anarchique, sans intention particulière, sans aucune velléité, hein, vraiment. Mais je me souviens que je me disais, bah, je fais confiance au temps. Et de toutes ces images, certainement émergera quelque chose. Et en effet, enfin, quand Jean, mon père, donc, m'annonce son intention de vendre la boutique, bah, je réalise aussi à quel point...
Parce qu'il est contraint. Hein.
Parce qu'il est contraint, parce qu'aussi, voilà, il est temps de tourner la page, de partir à la retraite. Voilà, pour plusieurs raisons, en effet. Et moi, là, tout d'un coup, je réalise à quel point ce lieu... Enfin, j'ai un lien très affectif avec ce lieu qui était en fait aussi mon ancien terrain de jeu quand j'étais enfant, quoi. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je reviens de façon si insistante? Évidemment, c'était un lieu très, très fascinant, très captivant. On pouvait vraiment poser la caméra le matin, partir et puis revenir le soir, et on avait une quantité de scènes improbables, de sketchs. Enfin, il y avait une ambiance un peu comme dans le film de Lubitsch, Shop Around the Corner.
Mais ou de Paul Auster, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, aussi.
Deux références.
Aussi.
Mais je suppose, Samuel Djaoui, que si votre film s'appelle 68, mon père et les clous, c'est en référence à 68, mes parents et moi, de Virginie Linard.
Alors aussi, oui, c'est vrai que bien sûr, oui, la structure aussi, enfin, forcément, c'est certainement un clin d'œil. Mais, si vous me demandez pourquoi j'ai choisi ce titre, je pense que 68, pour moi, renvoyait donc naturellement aux idéaux, à toute une utopie. Enfin, ça évoque, on va dire, le désir de rêve commun d'une société, voilà, qui a véhiculé cette époque-là. Mais de l'autre, je voyais donc les clous, qui est l'aspect très prosaïque de la vie, en fait, qui appartient vraiment au monde matériel, très pragmatique. Et puis, enfin, je sais pas, enfin, la vie, c'est beaucoup de bricolage, quoi. C'est que du bricolage. Donc l'essentiel, un peu, c'est que ça tienne. Il y a une cliente qui dit ça dans le film, c'est drôle. Et au milieu, voilà, cet homme, donc en l'occurrence mon père, qui, pour moi, peut-être essayait de faire le lien entre les deux.
Voilà, alors vous filmez aussi bien votre père, bien sûr, c'est le personnage central de votre film, mais si votre film est attachant, c'est que vous dépeignez tout ce petit monde, c'est-à-dire d'abord les travailleurs, ceux qui ont travaillé avec votre père, les employés, j'ose pas employer ce mot parce que justement, il y a une drôle de relation avec eux, on a l'impression que c'est une famille. Vous filmez aussi les clients, vous filmez le quartier, puisque le quartier se fait aussi entendre dans ce magasin, et puis surtout... vous isolez votre père, cette fois-ci dans un lieu souterrain, pour lui faire raconter son histoire. Mmh. Et on a l'impression que vous avez aussi fait ce film, Samuel Djaoui, pour connaître l'histoire de votre père.
Ah oui, tout à fait. Moi, je savais rien de lui. Je précise que tout ce qu'il dit devant la caméra, c'est la première fois qu'il me le dit. On n'en avait jamais parlé de cette façon-là. Je me souviens, quand je devais avoir 20 ans, je lui ai proposé de prendre un café pour qu'il me raconte un petit peu cette période militante, et j'avais été extrêmement déçu parce qu'il s'était réfugié derrière une attitude un peu, un discours très professoral et historique des événements, ce qui ne m'intéressait absolument pas. Je voulais savoir lui depuis sa place. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette sorte de huis clos et de l'interroger uniquement dans ce lieu, depuis ce lieu qu'il a créé, parce que ça raconte des choses, quoi.
Et là, il se confie, le Jean-Pierre, oui, on l'écoute.
Il y a d'autres trucs qu'on a fait, mais ça, c'était pas dans ce cadre-là, qui ont été très populaires, du genre Fauchon, du genre quand on a distribué les tickets de métro. Ça plaisait beaucoup, ça fait rigoler tout le monde.
C'est-à-dire
des trucs Robin des Bois comme ça.
Qu'est-ce que ça veut dire distribuer les tickets de métro?
On a été voler des tickets de métro dans une station, une nuit, et après ces tickets de métro, on les a distribués, enfin, des militants ont distribué, rapidement, il ne fallait pas se faire piquer, ont distribué aux gens, comme ça, gratuitement. C'était, je ne sais plus, il y avait eu une augmentation brutale des tarifs, et alors c'était pour ça.
Et la police, elle faisait quoi alors?
Ils sont embêtés, dans ce genre de trucs, ils sont embêtés, ils te courent après, mais en même temps... Ils sont embêtés parce que quand ils attrapaient quelqu'un, tu vois, ils passaient devant le tribunal en correctionnel, mais ça devenait une tribune, tu vois, ça gueulait partout. Bon, c'était pas... La police, elle faisait son travail, mais probablement sans grand enthousiasme. Enfin, pour des choses comme ça, c'est pas... C'est des questions politiques, ça se... C'est pas des questions policières, ça.
Tu penses qu'aujourd'hui, la réaction serait la même?
Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, ça serait une question policière. Attends.
Voilà, madame, regarde. Il y a ça pour les approcher. Il y a de...
Et pendant les interviews, Samuel Bujaoui, la vie continue dans ce magasin, dans cette quincaillerie. Bon, ceci dit, votre père n'a pas seulement fait que de distribuer des tickets de métro à la manière de Robin des Bois. Il a aussi séquestré un patron. Il s'est lancé dans la chasse aux nazis. Il vous raconte tout ça dans ce film. Et ce qui est intéressant, beaucoup plus d'ailleurs que ses réponses, ce sont vos questions, Samuel Bujaoui. On peut mesurer vraiment le conflit de génération, je parle d'idéologie, entre les questions que vous posez à votre père, les réflexions que vous lui faites. Là, on vient d'entendre, vous lui posez la question, et que faisait la police pendant ce temps-là, quand même?
Oui, pourquoi?
Non, mais juste pour dire que c'est très réjouissant de voir quelqu'un parler d'une manière très spontanée. Mm-hmm. Ça donne des scènes d'anthologie comme celle-ci, par exemple. Ah, écoutez voir.
Au fait, tu devais pas rendre à l'agence de location la camionnette?
Oui, non. Il me donne jusqu'au 3. Voilà.
Mais là, tu loues combien la camionnette?
500 euros par mois.
Mais tu l'as depuis combien d'années, la camionnette?
Ça va faire 10 ans maintenant.
C'est aberrant. Oui, c'est
10
aberrant.
Ans fois 12 fois ouais, 500.
Il a payé une fortune.
C'est ridicule.
Bien sûr. C'est tout à fait ridicule, en effet. J'aurais pu en acheter 3 pour ce prix-là.
Non, mais t'es vraiment mauvais en affaires, quoi, en fait.
Oui. Très.
Non, mais c'est un... Enfin, je sais pas. Tu réfléchis pas, en fait, quand tu fais ça. Tu croyais que il y a 10 ans, t'allais ne pas avoir de besoin du camion? Je comprends pas ton raisonnement.
Bon, en fait, peu importe. C'est comme ça. Oui, ça a duré trop longtemps, en effet. Ça a duré trop longtemps.
Mais tu te rends compte, le fric perdu?
Bien sûr, oui.
Mais toi, en fait, t'aimes bien perdre de l'argent.
Oui, sans aucun doute. Bon, écoute, tu me laisses tranquille, là, maintenant.
Là, il est énervé, votre père. Hein, ça m'a bien vu, là, il est énervé. Hein.
Oui. Ouais. Je l'agace un peu, oui, bien sûr, je vais le chercher un petit peu.
Ouais. Et en plus, vous posez les questions de votre époque. rentabilité, rendement.
Ouais.
Alors, ce qui est bien dans ce film, c'est que vous avez intégré, y compris cette scène où tous les travailleurs, votre père compris, regardent ce que vous avez filmé. Ça, c'est dans le film.
Alors, c'est un peu particulier. Comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé à filmer pendant des années sans vraiment savoir où j'allais. Et donc, il n'y avait pas d'intention de film. Je prenais des images, en fait, de ce lieu, parce que, à nouveau, c'était un haut lieu de sociabilité dans le quartier. C'était un repère pour beaucoup de gens. On n'y venait pas seulement pour acheter une planche ou des clous, mais vraiment, voilà, pour prendre un café, pour parler politique, économie, cinéma, philosophie, demander des conseils. Donc, de toutes ces images-là, j'en ai fait un film que je projette. En fait, c'est pas vraiment un film, on va dire que c'est plutôt un album de photos, images animées, comme une sorte de patchwork et qui ne s'adresse qu'aux habitués, qu'aux clients, qu'à la famille, qu'aux employés. C'est vraiment le film de l'entre-soi que je projette lors du pot de départ. Mais il n'y a pas de fil, il n'y a pas de narration. Mais j'ai voulu filmer cette scène et la mettre dans le film. Alors là, bon, c'est vraiment interne. On rentre dans des considérations liées au montage, mais parce que je trouvais intéressant qu'il y ait cette petite graine qui a donné naissance au film, au documentaire 68 Mon père et les clous, qui est cette graine à l'intérieur du film. Mais c'est un autre film, voilà, qui dure une petite heure.
Ouais, et puis 68 Mon père et les clous, c'est pas un film sur votre père, c'est un film d'un fils aussi, hein, c'est-à-dire que vous êtes très très présent avec vos questions, avec votre manière de filmer, votre manière de mettre en scène les personnages. Michel Simon, vous avez vu le film de Samuel Biaoui? On attend avec impatience votre verdict.
Non, mon verdict, bon, c'est un film très intéressant, mais en même temps, je m'interroge. J'ai pas eu la réponse vraiment dans le film. C'est-à-dire, d'abord, je comprends ce que vous dites à propos de votre père. C'est-à-dire que quand vous parliez avec lui, il parlait pas beaucoup, il racontait pas beaucoup de choses, et on sent que vous le poussez dans ses retranchements, dans la scène au sous-sol, où il va parler de l'action directe, des actes presque, il se définit même comme terroriste à un moment.
Non, tout le contraire.
Il emploie le mot terroriste.
Ah bah oui, tout le contraire. Il dit justement, si vous entendez bien, voilà. Aujourd'hui, on nous aurait appelé des terroristes, voilà. Mais on était en rien des terroristes. Ils n'ont jamais fait couler le sang.
Séquestration. Non, d'accord, c'est séquestration. Et mais il était maoïste. Alors, l'articulation entre, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire quelqu'un qui a une boutique, qu'il appelle ça un refuge, une petite entreprise. Il dit qu'il a cette boutique parce qu'il ne veut avoir personne au-dessus de soi, alors que le maoïsme, c'est par définition avoir une figure paternelle qui est Mao et de faire tout. Moi, je me rappelle Godard, je l'ai vu en 70 au Trocadéro, où quand les gens lui posaient des questions, il disait « j'ai pas à répondre à ces questions, tout se trouve dans Pékin Information ». C'est-à-dire les maoïs, c'était la parole, le petit livre rouge, c'était les paroles idiotes de ce criminel monstrueux qui avait fait 50 millions de morts, et ça ne posait aucun problème aux gens. Moi, j'étais du côté de Simon Lèze, je lisais les habits neufs du président Mao, etc. J'étais très mai 68, mais côté cône bandite, pas du tout côté stalinien. Les communistes staliniens, eux, freinaient des quatre fers. Les maoïstes, au contraire, voulaient faire le grand bond en avant. Et il y a une contradiction. Et j'aurais aimé peut-être que votre père aille plus loin dans comment on peut passer d'avoir quelqu'un au-dessus de soi dont on écoute les paroles d'évangile comme un boulin à prière, et puis passer à la petite entreprise où on ne veut avoir personne au-dessus de soi et c'est une sorte de refuge. C'est le contraire du maoïsme, la petite entreprise. Mao les détruisait toutes.
Bah, écoutez, ça, je vous laisse le plaisir de lui poser la question directement. Je ne vais pas répondre à sa place. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, Bricomonge a été une sorte d'incarnation, de continuité d'une vision politique, sociale, économique, sociétale de cet homme, et que je le comprends comme ça. Le film tente de répondre à cette question. D'abord,
bon, ouais, parce que c'est plus largement coopératif d'ailleurs.
Comment fabrique une vie et qu'est-ce qui l'a amené? Laissez-moi finir. Qu'est-ce qui l'a amené à ouvrir à 40 ans une boutique de bricolage et à vendre des clous, alors qu'en effet ses potes de l'époque ont eu un parcours, on va dire, plus naturel. Ils sont devenus professeurs d'université, journalistes, cinéastes, écrivains, etc. Bon, lui, il a choisi ça, il a créé un monde qui est très particulier pour qu'un des employés dise, un des employés, en effet, enfin, comme vous disiez, Toufi, que c'est difficile d'employer le mot employé, justement, à l'égard de ces personnes, mais il dit, j'ai un peu perdu mon magasin. Quand il a appris, donc, que Bricomanche allait fermer, voilà, j'ai pas voulu tout expliquer parce que je respecte hein, ces zones d'ombre, ces silences, et que j'apporte des éléments de réponse pour comprendre comment il en est arrivé là et qu'est-ce que c'est que Bricomonge et de quoi Bricomonge est le nom pour lui et puis pour beaucoup de gens, pour ce que ça représente dans le quartier.
Mais surtout, ce qui est important dans ce film, c'est que vous arrivez avec votre regard. C'est-à-dire, on voit bien que les questions que vous posez, le regard que vous portez sur ce magasin, ce sont vraiment d'un jeune d'aujourd'hui qui n'a pas l'idéologie de ses parents ou de son père, plus particulièrement en ce qui vous concerne. D'ailleurs, c'était la question que je voulais vous poser pour terminer cet entretien. J'ai beaucoup aimé 68, mon père et les clous, parce que d'abord, vous filmez un magasin en train de fermer, donc c'est l'inventaire. Est-ce que c'était tout à la fois l'inventaire du magasin et l'inventaire de mai 68?
Mais pas du tout, c'est pas un film sur mai 68, mais il est dans le titre parce que c'est lié au parcours atypique de mon père, et que quand même il y a un tiers du film qui parle de ce qu'il a fait, de son action militante lors des événements après 68 d'ailleurs. Ça, rien, je voulais m'aventurer dans un film sur 68. Mais moi, les questions que je pose, c'est...
Alors, inventaire de...
Oui, inventaire, c'était en effet, je pense, un moment très propice lors de la fermeture et du magasin de lui demander des comptes, on va dire, les derniers comptes, quoi, l'ultime inventaire avant la fermeture de ce lieu qu'il a fabriqué. Et puis,
mais aussi voilà, de son parcours.
Moi, voilà, de ce parcours, et moi, je viens...
Vous auriez aimé vivre cette période, la période de votre père, Samuel Bjaoui, vous êtes plutôt content de vivre l'époque d'aujourd'hui?
Non, je ne suis pas heureux de ce qui se passe aujourd'hui, mais après, c'est une question un peu délicate. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas vécue? C'est qu'une représentation et des projections...
Alors, autrement poser la question, c'est peut-être de vous dire, pour vous, votre père, c'est un héros ou c'est un loser?
Pas du tout. C'est ni l'un ni l'autre. C'est une personne qui a essayé de bricoler sa vie, comme beaucoup. C'est absolument pas à la gloire de mon père. Et c'est pas un loser. Après, lui, il dit, il aurait pu prendre plus de risques, il a fait... Mais il n'y a pas de jugement, je rentre pas du tout. C'est pas quand on parlait de comptes, c'est pas du tout des comptes d'un fils qui réclame, enfin un côté comme ça psychanalytique. Pas du tout. Moi, je voulais pas du tout rentrer dans cette dimension-là. C'est intrinsèquement le film d'un fils qui filme son père. Mais je veux dire par là, je questionne. Enfin, la question de la transmission et de la filiation, elle reste universelle. Et je soulève en creux la question comment on fabrique une vie de façon plus générale. Et puis, il y avait plusieurs autres couches de lecture, plusieurs autres strates. La question du travail, des relations humaines au travail. Et puis, en effet, bon, en toile de fond, la fin d'un monde et d'une génération.
68, mon père et les clous, le film qu'on vous recommande de voir. C'est un documentaire de Samuel Bjaoui. Merci d'être passé ce matin.
Merci, Toufik.
Amant plaqué par la vie, amour brisé c'est la vie, regard braqué sur la nuit, au bout du quai c'est fini, chagrin qui mord aujourd'hui, demain encore puis l'oubli, le cœur s'en va résigné, tant fait d'en passer gagné, mais gagné quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous, si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Solitaire sur la terre, l'homme chante sa chanson, mais rien jamais ne lui répond. Les sentiments c'est coûteux, l'or et l'argent c'est bien mieux, on passe le temps comme on peut, ça fera tant cher monsieur, gros capital bien compté, tout m'est égal si j'en ai, c'est le festival de bonté, le principal c'est de gagner, mais de gagner quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous, si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Sur la terre, ça change guère, c'est toujours la même chanson, mais la vie chante à sa façon.
Le temps qui court sous la peau, le bon Dieu sourd comme un pot, la trouille pour le magot, et tout autour des badauds. Donne-moi chrétien des tickets, parlant latin s'il te plaît, dernier refrain chuchoté, dis-moi combien pour gagner. Pour gagner quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Sous la terre, la poussière, c'était l'homme et sa chanson. Quand on est mort, c'est pour de bon.
Léo Ferré, en 1953, bien sûr, vous l'avez tout de suite reconnu, Michel Simon.
Bien sûr.
Alors, si on parlait un peu d'un autre réalisateur, alors je ne sais pas d'ailleurs s'il a été marqué par mai 68, Michel Deville ou pas.
Non, pas du tout.
Ouais, il faisait un cinéma plutôt bourgeois, non?
Pas bourgeois non plus.
Alors, vous allez prendre sa défense.
Non, mais un artiste n'est pas bourgeois ou pas bourgeois, ça c'est des catégories. Non, un artiste c'est la liberté d'abord, avant tout, et la curiosité. Et Deville, c'est, je disais souvent que... Il y a des rapports entre Deville et Rennais. Rennais, de façon évidemment très cérébrale et admirable, c'est un très très grand cinéaste. Mais Michel Deville est un cinéaste ludique. Il est proche de l'Oulipo. Il adore les. Par exemple, il a fait un film qui s'appelait La Petite Bande après avec Gilles Perrault.
Absolument.
Qui est sur un groupe d'enfants, des enfants anglais qui se retrouvent en France et ne peuvent pas être reconnus. Le film est entièrement muet, c'est-à-dire il ne prononce pas un mot pendant une heure et demie.
Mais dites-nous, Michel Simon, pourquoi vous nous parlez de l'auteur de Péril en la demeure, du dossier 51 et des Capricieux, pour ne citer que quelques titres de sa longue filmographie. Est-ce qu'on rend hommage à Michel Deville quelque part en France?
Parce que demain, à partir de demain, la Cinémathèque, pour tout le mois de mai, c'est une intégrale de Deville. Et je trouve que c'est formidable parce que c'est un cinéaste qui a eu des Césars, trois Césars, qui a été plusieurs fois lauréat du prix de la critique, qui a connu des succès de 1, 2, 3 millions de spectateurs, et qui est tombé un peu dans l'oubli parce que la génération qui n'était pas de la nouvelle vague, c'est-à-dire des gens comme Cavalier, comme Louis Malle, comme Rapneau, eh bien, ils ont été un peu marginalisés par la critique au profit de Chabrol, de Truffaut, de Rivette, etc. Et je pense que c'est formidable que la Cinémathèque aujourd'hui rende hommage à Deville avec des films d'une extrême variété, qui a dirigé tous les grands comédiens français de Piccoli à Deneuve, de Brigitte Bardot, par exemple. L'ours et la poupée, c'est un des meilleurs films de Bardot. On n'en parle presque jamais. Lucky Joe, c'est un film avec Eddie Constantine, qui tranche avec beaucoup de films d'Eddie Constantine, qui n'étaient pas de très grande qualité. Donc je pense que c'est un cinéaste qui était en perpétuelle recherche. Encore une fois, Voyage en douce aussi, deux femmes qui se promènent dans le midi de la France. Un coin presque tranquille sur des juifs qui reviennent des camps et qui ont un atelier de couture dans les années 45-50. C'est très très original. Et il y a des films comme Benjamin, évidemment, Les Mémoires d'un puceau, des films en costume. C'est un homme qui a tout le temps, qui s'est renouvelé en permanence. Et cet hommage qu'on lui rend à la Cinémathèque est accompagné d'un dossier dans la Revue Positive, d'ailleurs un dossier entièrement consacré. Michel Deville est toujours vivant et bien vivant, même s'il a arrêté de travailler. Et je pense que moi, ça me fait très plaisir de voir les portes s'ouvrir et les exclusions cesser.
Merci beaucoup, Michel Simon. Mais bonne journée à vous. Hein. C'est une journée fériée. Merci d'être de plus en plus fidèles et de plus en plus nombreux à nous suivre, soit en nous écoutant tous les petits matins sur France Culture, soit en passant par l'abonnement au podcast ou l'écoute en ligne disponible, entre autres, sur franceculture.fr. Bonne journée, à demain.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le Journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Fauve, écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad. Hippolyte, la cinquantaine, peine à achever le montage de son dernier film. Quel sera l'effet d'un appel téléphonique sur le cours de sa vie? Au cœur de la sauvagerie archaïque qui nous habite, Des fauves cachées, insoupçonnées, nous obligent parfois à affronter nos silences, nos terreurs et nos hontes. Comment de l'amour et de la bonne éducation peuvent naître les violences les plus aveugles ? Fauve, du 9 mai au 21 juin, à la Colline, Théâtre National, à Paris. Un partenariat France Culture. Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Si vous parlez des suicides, vous les multipliez. Voilà comment l'ancien patron de France Télécom justifie la vague de suicides dans l'entreprise il y a 10 ans maintenant. Il la justifie par leur médiatisation. Deuxième journée d'audience lors du procès hier, compte rendu à suivre. Nous reviendrons ensuite sur la loi d'orientation des mobilités et la prime à la mobilité en entreprise, trajet en vélo ou en voiture. Elle pose de nombreuses questions. Dans ce journal encore, portrait du chef du gouvernement libyen, Fayez al-Sarraj. Il est aujourd'hui à Paris. Portrait aussi social en Cisjordanie pendant le ramadan des habitants sur place. Ramadan difficile en pleine crise économique, vous le comprendrez. Pour ceux qui espéraient un mot d'excuse, il n'en a rien été. Au procès de France Télécom pour harcèlement moral hier, l'ancien PDG de l'entreprise a provoqué un électrochoc. Alors que France Télécom était traversée par une vague de suicides entre 2007 et 2010, quand Didier Lombard était patron, il avait alors parlé de mode du suicide. Une expression qu'il regrette aujourd'hui, tout en la justifiant, Antoine Marette.
Didier Lombard explique que quand il est arrivé à la tête de l'entreprise, la situation était catastrophique. La maison était en péril à cause du surendettement, de l'agressivité de la concurrence et des évolutions technologiques, affirme-t-il dans une longue lettre qu'il lit devant le tribunal. Il fallait donc transformer l'entreprise. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand la présidente lui demande si, selon lui, la transformation s'est bien ou mal passée, il montre du doigt une crise médiatique qui a cassé le moral des collaborateurs. Si vous parlez des suicides, vous les multipliez. C'est pour ça que j'ai parlé de mode du suicide, conclut-il, tout en regrettant son expression. L'avocate de Sud, maître Sylvie Topaloff, ne cache pas sa colère.
Je suis sidéré que 10 ans plus tard, on vient nous servir exactement le même argument. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de crise sociale, il n'y a pas eu de crise des suicides. En réalité, c'est un phénomène médiatique. Il y a eu des effets de contagion sur le nombre de suicides. C'est-à-dire nier toutes sortes de responsabilités par rapport aux suicides. Ne même pas vouloir les prendre comme indice d'une crise sociale qui avait cours pendant l'année 2009. C'est effarant.
L'avocat de Didier Lombard reconnaît la maladresse de son client sur l'expression « mode du suicide ». Mais il tente de relativiser l'ampleur du phénomène au sein de l'entreprise en se risquant à une comparaison. En 2012, il y a eu 4 suicides parmi les 8000 magistrats et c'est statistiquement beaucoup plus qu'à France Télécom, conclut-il.
Antoine Marette au tribunal correctionnel de Paris pour France Culture. Emmanuel Macron a rendu hier soir une visite surprise aux colistiers de la majorité présidentielle aux élections européennes. Dans un restaurant parisien, il a voulu sonner la mobilisation, leur apporter son soutien. La liste de la majorité étant à la peine dans les sondages à 18 jours du scrutin. Juste derrière le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella, crédité de 21,5% des intentions de vote, la liste de Nathalie Loiseau enchaîne donc les maladresses. Et voici l'analyse de Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Il était hier soir l'invité de Stanislas Vazak lors du journal de 22h.
Nathalie Loiseau a une première faiblesse, c'est qu'elle a une communication qui est assez maladroite. Son entrée en campagne face à Marine Le Pen sur le plateau de l'émission politique avait été un peu chaotique parce que Marine Le Pen avait senti venir en fait son annonce de candidature, s'était un peu moqué d'elle. Ça n'avait pas été très efficace. Il faut avouer qu'une déclaration comme celle qu'elle vient de faire, qui est de dire « depuis le mémorial de la paix de Caen », alors qu'elle-même est accusée d'avoir été candidate sur une liste d'extrême droite, elle a comparé sa campagne à une blitzkrieg, ce qui n'est pas forcément très habile à la veille du 8 mai 45, par ailleurs, enfin de la célébration du 8 mai. Donc elle accumule un peu les bourdes, ce qui fait qu'au fond, elle affaiblit sa position et elle gagnerait peut-être à écouter davantage son entourage ou à être un tout petit peu plus en contrôle. On peut penser que c'est pour cette raison qu'Édouard Philippe a été dépêché à ses côtés.
Édouard Philippe, le Premier ministre, en meeting lundi soir aux côtés de Nathalie Loiseau et donc Emmanuel Macron plus discrètement hier soir à Paris. Emmanuel Macron qui avait promis une baisse d'impôts, elle est chiffrée depuis quelques jours par tous ses ministres. Après Bruno Le Maire à l'économie, Édouard Philippe, Premier ministre hier, c'est Gérald Darmanin au compte public qui communique ce matin dans Le Parisien. Il évoque une baisse d'impôts sur le revenu de 300 euros en moyenne sur l'année pour 95% des contribuables. Selon lui, le déficit français restera autour des 2% du PIB en 2020. Un peu plus, voire beaucoup plus, disent certains experts, alors que la dette de la sécurité sociale, elle, devrait se creuser. Au chapitre des annonces pour plus de pouvoir d'achat encore, ce financement pour les trajets domicile-travail. La loi d'orientation des mobilités propose aux employeurs de dédommager leurs salariés à hauteur de 400 euros par an. Aujourd'hui, cette prime mobilité ne concerne que les trajets effectués en vélo ou en covoiturage. Et c'est trop peu, Scarlett Bain.
Sur une grande partie du territoire français, les habitants n'ont pas d'autre moyen pour aller travailler que de prendre le volant. Du coup, le texte de loi ne satisfait pas les syndicats qui demandent que pour les zones le plus souvent rurales, où l'offre de transport en commun n'est pas satisfaisante, les trajets en voiture soient eux aussi indemnisés. Yves Verrier, secrétaire général de FO.
Quand vous avez 20, 30, 40 kilomètres à faire pour aller au travail, c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui habite pas très loin de chez vous, qui travaille au même endroit avec les mêmes horaires pour que le covoiturage fonctionne, par exemple. Et donc, on a réinsisté, nous, pour que on imagine un dispositif qui prévoit qu'en dernier ressort, qu'un salarié puisse bénéficier d'une prime transport quand il n'a pas d'autre solution.
Le chèque transport pourrait se faire sur le modèle du ticket restaurant. Pour l'instant, dans le texte de loi, un tel dispositif serait mis en place après discussion entre les entreprises et les syndicats. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a expliqué que si les partenaires sociaux et le patronat ne se mettaient pas d'accord, l'État trancherait. Mais pour certains, la loi ne va pas assez loin. La mobilité, ce n'est pas que le trajet domicile-travail. Dominique Dumeau, président de l'Association des maires ruraux de la Sarthe.
La mobilité, c'est bien évidemment aller au travail, mais ce n'est pas que ça. C'est l'école, c'est les loisirs, c'est la culture, c'est les services publics. Et les entreprises n'ont pas non plus à payer pour la disparition des services publics ou pour l'éloignement des écoles en milieu rural. C'est une politique nationale qui crée ce déséquilibre et c'est donc à l'État de compenser.
Sachant qu'un habitant d'une zone rurale fait en France en moyenne 20 km pour accéder à des services publics.
Le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj est attendu à Paris ce mercredi. Il doit s'entretenir avec Emmanuel Macron. Après un détour par Rome et Berlin hier, le chef du gouvernement d'Union nationale installé à Tripoli semble de plus en plus isolé. Et face à l'offensive du maréchal Haftar dans son pays, il veut donc rallier publiquement tous ses soutiens européens. Son portrait ce matin est signé Valérie Crova.
Lorsqu'il débarque en mars 2016 dans le port de Tripoli, Fayez El-Sarraj a pour ambition de pacifier son pays. Trois ans plus tard, il se retrouve assiégé dans la capitale libyenne. Issu d'une grande famille, son père a été l'un des fondateurs de l'État libyen. Sarraj tire sa légitimité de la communauté internationale qu'il a adoubé chef du gouvernement d'Union nationale libyen. Mais sur le terrain, il ne peut pas rivaliser avec l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, soutenu par les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. En l'absence d'une armée forte, Sarraj s'appuie sur des milices et ne peut compter que sur quelques soutiens à l'étranger, dont la Turquie et le Qatar. En venant à Paris, Fayez El-Sarraj espère obtenir un soutien clair de la France, tiraillé entre la lutte contre le terrorisme dans une région très instable et la volonté de rétablir la paix dans un pays où elle est intervenue militairement en 2011 pour chasser Muammar Kadhafi.
L'Iran entend revenir un petit peu sur ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur son nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères doit l'annoncer aujourd'hui, mais il prévient déjà, il ne va pas remettre en cause cet accord. Partons maintenant en Cisjordanie, où le ramadan est en partie gâché en ce moment par la grave crise économique dans laquelle se trouve l'autorité palestinienne. Depuis deux mois maintenant, les salaires ont diminué, la couverture sociale est fragilisée. Une crise liée évidemment au bras de fer avec Israël. C'est un reportage d'Étienne Monin.
À Ramallah, le père de Saïf est un haut fonctionnaire, mais cette position aujourd'hui est délicate. Les salaires du public ont été coupés de moitié depuis deux mois. On fera comme on pourra pour le ramadan, dit le jeune homme.
Ce sera un ramadan triste pour tous les Palestiniens. On fera comme on pourra. On achètera ce qu'on pourra, moins qu'avant, c'est sûr.
Saïf travaille dans la principale chaîne de supermarchés en Palestine. Le ramadan normalement, c'est 30% de chiffre d'affaires en plus. Mais cette crise de financement oblige à plus de souplesse, explique Ali Charkas, chef des ventes chez Brava.
On a augmenté les promotions, on les a lancées aujourd'hui et on fait des réductions même si les gens achètent en petite quantité. Parce que les revenus des clients maintenant ont chuté de 30 à 40%.
Depuis février maintenant, l'autorité palestinienne ne perçoit plus la TVA et les droits de douane palestiniens qui sont collectés par les Israéliens. Les dirigeants font en quelque sorte une grève des revenus pour protester contre une retenue à la source décidée par le Parlement israélien pour tenter d'empêcher le soutien financier aux familles de prisonniers palestiniens. Le manque à gagner pour l'autorité palestinienne est considérable. Il représente 65% du budget, mais le bras de fer est engagé, explique le politologue Hassan Katib.
Je pense que les Palestiniens se sentent dos au mur. Il y a le sentiment chez les dirigeants que s'ils permettent aux Israéliens ce type de déduction, ça va les encourager à refaire la même chose plus tard.
En interne, ce combat redonne du crédit à la présidence palestinienne et même les Israéliens semblent maintenant inquiets d'un risque d'effondrement.
Étienne Monin depuis Ramallah pour France Culture. Un temps maussade est prévu ce mercredi. La pluie va laisser place à l'orage. Il fait ce matin 12 degrés à Lille, 13 à Paris, 17 à Marseille. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous rejoignez pour votre journal des idées à 6h40. Jacques, lors de son grand show annuel la semaine dernière, Mark Zuckerberg a présenté le nouveau visage de Facebook, un réseau social plus rigoureux dans sa gestion des données personnelles et davantage tourné vers les échanges privés.
Oui, je cite, « Depuis 15 ans, nous nous sommes focalisés sur la construction d'une place du village numérique, public », a-t-il déclaré. « Nous avons aussi besoin de l'équivalent numérique de nos salons. » Mais, comme le souligne Martin Utterzinger dans lemonde.fr, Mark Zuckerberg ne comprend pas et n'a jamais compris le concept de vie privée, une notion visiblement dépassée pour lui, qui a mis des années à admettre qu'il était nécessaire d'offrir aux utilisateurs des moyens de choisir qui pouvait accéder à ce qu'ils postaient. Sans compter le modèle économique consistant à aspirer quantité de données personnelles pour les vendre aux publicitaires, voire à des officines comme Cambridge Analytica, le tournant annoncé comme une victoire pour la vie privée vise aussi à faire oublier la fusion des messageries d'Instagram, de WhatsApp et de Messenger. Quoi qu'il en soit, les utilisateurs n'ont pas attendu le message de Mark Zuckerberg pour préférer le salon à la place publique, comme en témoigne le succès de WhatsApp, devenu l'application de base de communication directe ou en petits groupes pour plus de 1 milliard d'internautes. Brocardant le ton volontiers messianique adopté par le gourou de la Silicon Valley, Laurence de Charette note dans le Figaro qu'il renonce à sauver le monde. Oublier l'idée de faire de Facebook, l'agora populaire dont auraient rêvé Platon et toute la Grèce antique. Abandonner aussi les jolies utopies telles que rapprocher le monde, rassembler l'humanité ou rendre l'homme plus libre. Le réseau social qui permet la diffusion d'un attentat en direct, véhicule les appels à la haine et les fake news à l'appel, renonce à se présenter comme un idéal démocratique. La directrice du Figaro.fr ne fait pas de quartier. Les héros du web ont inventé un langage entrepreneurial aux accents christiques dans lequel il n'est plus question de marché mais de mission. Les patrons 2.0 ne cherchent pas des clients, ils désirent le bonheur des gens, ils ne proposent pas des produits mais une vision du monde. Conclusion provisoire, l'ère numérique a parfaitement su capter la quête de sens qui traverse le 21e siècle mais elle l'a détournée. Le dernier slogan de la marque adopte donc le même ton.
The future.
Voilà, Mark Zuckerberg. L'avenir est privé donc. À propos de celui que nous réservent les ingénieurs et hommes d'affaires de la Silicon Valley, le psychologue allemand Harald Welzer déplorait dans un article relayé par Courrier International que, je cite, « l'avenir c'était mieux avant ». Des voitures sans conducteur, des maisons qui s'entretiennent toutes seules avec un placard à bouteilles muni de capteurs qui nous diront qu'un verre ça suffit et des applications autocontrôlées. Cet avenir qu'on nous promet plein de glorieuses promesses ne se résume pour l'heure qu'à un programme d'infantilisation. Des solutions apportées à des problèmes triviaux dont la résolution ne changera rien à notre existence. En revanche, les questions qui ont préoccupé l'humanité de tout temps, l'injustice, l'oppression, la violence, ne les intéressent pas. Améliorer la condition humaine, il fut un temps pourtant où c'était ça l'avenir. La dernière livraison de la revue Esprit ausculte l'idéologie de la Silicon Valley. Emmanuel Aloha et Jean-Baptiste Souffron évoquent l'utopie d'une société hors sol, au travail virtuel et au support dématérialisé, avec des citoyens affranchis de toute attache, pouvant se connecter partout. Mais loin de promouvoir automatiquement un monde plus égalitaire et plus juste, les algorithmes confirment souvent les opinions et les préjugés déjà en vigueur, biaisant ainsi le futur avec leurs prédictions orientées. Fred Turner, professeur en sciences de la communication à l'université Stanford, revient sur le contexte communautarien des années 60 où est née l'utopie d'un monde dépourvu de politique que les technologies de l'information et de la communication devaient rendre meilleur en reliant les individus entre eux. Pour lui, l'idéologie de la Silicon Valley est le fruit paradoxal de la rencontre entre la culture militaire et la contre-culture. Le complexe militaro-industriel est très présent sur la côte ouest des États-Unis et sa prospérité a largement bénéficié aux entreprises technologiques locales. Par ailleurs, la culture militaire y est très ouverte et la contre-culture, dans son versant californien, bien plus à l'aise avec l'idée de commerce qu'on ne le pense. Pour Fred Turner, le problème n'est pas l'aspect technologique de la techno-utopie, mais l'aspect utopique qui a une tendance naturelle à former un système totalisant. Et pour ce qui concerne la technologie, nous n'avons pas encore les mots pour exprimer l'infrastructure en termes politiques. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les élections européennes, la bataille des souverainistes.
Oui, J-18 aujourd'hui et ce seront donc bien 751 députés qui seront élus du 23 au 26 mai pour le Parlement européen, puisque depuis hier, accord de Brexit ou non, les Britanniques participeront. En France, comme au Royaume-Uni, en Italie, les listes eurosceptiques sont données en tête face au parti de gouvernement ou avec ses partis. Les extrêmes droites veulent toujours renverser la table, du moins peser. Dans un discours au Collège de France, au Collège européen de défense récemment, Emmanuel Macron lui espérait toujours conjuguer souveraineté nationale et européenne. Est-ce possible ? Bonjour Christian Lequen.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de la politique étrangère et européenne de l'Union européenne. Alors si on regarde le paysage récent, clôture des listes en France vendredi dernier et début de semaine chargé en Europe, lundi le social-démocrate Frans Timmermans à Varsovie, le libéral néerlandais Mark Rutte à Paris, Viktor Orban à Varsovie qui reçoit le vice-chancelier autrichien d'extrême droite Strache. On peut dire à Budapest qui reçoit Strache. La campagne officielle ne commence que le 13 mai en France, mais on a rarement vu une aussi grande vitalité quand même dans le paysage politique européen.
Oh, je relativiserai ce que vous dites, parce que effectivement, il y a eu un certain nombre de déplacements de personnalités dans d'autres pays, mais dans l'ensemble, les campagnes ont quand même du mal à commencer à exister un peu partout. Si vous voulez, on ne sent pas autour de cet enjeu européen une véritable dynamique des sociétés, si vous voulez. Et effectivement, il y a 33 listes en France, mais lorsque vous regardez le paysage, vous voyez peu de choses qui nous rappellent que nous allons voter pour des députés européens. Et la France n'est pas, de ce point de vue, un cas particulier. Non, moi, je dirais plutôt que la campagne est un peu fade et qu'elle l'est dans tous les États membres de l'Union européenne.
Alors, disons que ça, c'est pour la visibilité de la campagne au niveau national. Vous avez souligné 33 listes en France contre 19 à 25 selon les circonscriptions en 2014. Elles sont 41 en Allemagne, 10 de plus qu'en 2014, 18 en Italie contre 12 en 2014. Là, est-ce qu'il n'y a pas quand même le témoignage d'une vitalité, d'un intérêt politique quand même plus important?
Alors, c'est lié aussi au fait que c'est une élection où s'applique la proportionnelle. Dans un certain nombre d'États de l'Union européenne, la proportionnelle s'applique pour les élections. questions nationales, mais c'est pas le cas en France. Hein. Par exemple, c'est plus facile pour les petits partis d'être élus au Parlement européen que de l'être à l'Assemblée nationale. Donc, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en ligne de compte. Maintenant, effectivement, les partis qui sont plutôt anti-européens au sens de ne pas vouloir continuer le projet actuel de l'Union européenne ont tendance à se mobiliser partout. Dans le cas de la France, nous avons plusieurs listes eurosceptiques, par exemple à droite.
Oui, elles sont trois de plus en Allemagne aussi, je crois, donc le reflet des tendances de ces dernières années. Est-ce que ça implique forcément, maintenant qu'on est à 2 semaines du scrutin, qu'on aura un Parlement très différent de ce qu'il est aujourd'hui et puis des dernières décennies après le 26 mai, à savoir que selon certaines projections, là je prends une enquête du 15 avril dans les 28 pays de l'Union européenne, les trois groupes principaux eurosceptiques pourraient arriver à 173 élus, ce qui serait grosso modo ce que font les partis traditionnels.
Oui, il se pourrait effectivement que la composition de ce Parlement européen soit différente de ce qu'elle a été jusqu'à présent, et notamment un point essentiel, si vous voulez, aussi dans le travail que fait ce Parlement européen, les deux grands groupes politiques que sont d'un côté le centre droit qu'on appelle le Parti populaire européen et de l'autre les sociaux-démocrates n'auront vraisemblablement plus la majorité. Et ça, c'est une différence essentielle avec ce qui s'est passé depuis quasiment la création de ce Parlement européen. Ça veut dire que ces deux grands groupes ne pourront plus, par un espèce de jeu entre eux, trouver des compromis sur les nominations, sur l'adoption des grandes politiques de l'Union européenne. Il faudra composer davantage avec les autres groupes politiques. Et donc les stratégies d'alliance seront beaucoup plus compliquées qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent.
Et précisément, c'est pour ça que j'évoquais cette journée quand même mouvementée, où avec beaucoup de mouvements intra-européens hier ou lundi 6 mai. Donc Timmermans qui est à Varsovie, qui propose un salaire minimum européen, l'accès généralisé aux services de santé. D'un autre côté, les libéraux ALDE de Mark Rutte et puis LREM d'Emmanuel Macron qui tente de formaliser une alliance. Est-ce qu'il n'y a pas là, disons, à 2 semaines du scrutin, le témoignage d'une difficulté à faire ces alliances ?
Si, bien entendu, parce que les groupes politiques au Parlement européen, ils n'ont jamais effacé les différences nationales. Et donc, voilà. Alors, pour Monsieur Macron, la difficulté est la suivante, c'est-à-dire que naturellement le groupe avec lequel il doit s'allier, c'est le groupe libéral qu'on appelle ALDE en utilisant un acronyme strasbourgeois ou bruxellois. Je pense, a très envie de le faire et je crois qu'il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix pour exister véritablement, pour que son groupe existe véritablement au sein de ce Parlement, mais c'est un groupe libéral. Et quand on dit libéral dans la vie politique française, on a plutôt l'impression de dire à droite. Or, M. Macron doit surtout essayer de rallier le centre-gauche. Et sa difficulté est là, c'est-à-dire qu'il a, je pense, très envie de faire alliance avec les libéraux, mais il ne peut pas trop le dire, tout simplement parce que les contraintes de politique nationale continuent aussi à jouer dans cette élection.
Et avec un groupe qui apporterait une vingtaine de députés à ce groupe ALDE. Rien n'est réglé non plus, il faut en dire un mot, de la bataille pour les institutions européennes, puisqu'il y aura la tête des trois grandes institutions, présidence du Conseil, présidence de la Commission, présidence du Parlement à renouveler, ainsi que le haut représentant aux affaires étrangères. Là encore, ça va dépendre forcément de ce résultat, plutôt au centre. Aux extrêmes, c'est imaginable, une des têtes européennes ?
Alors, pour ce qui est de la présidence de la commission, il y a un système qui a été, si vous voulez, accepté, bien qu'il ne figure pas dans les traités européens, qu'on appelle le système des Spitzenkandidat, c'est-à-dire on a accepté la fois précédente que le leader du parti qui ferait le meilleur score en tant que groupe européen aurait vocation à devenir président de la Commission européenne. C'est ainsi que M. Juncker est devenu le président de la Commission parce que le PPE avait fait le meilleur score en 2014. Un certain nombre de partis politiques, la plupart d'entre eux, pas tous, ont désigné justement des Spitzenkandidat. C'est le cas de M. Manfred Weber, par exemple, pour le Parti populaire européen. Maintenant, toute la question, c'est de savoir si la complexité des alliances va permettre de respecter ce choix du Spitzenkandidat. Moi, je ne suis absolument pas sûr que M. Manfred Weber, si le PPE est le groupe numéro 1 au sein du Parlement européen, devienne le président de la Commission européenne. On peut très bien, par le jeu des alliances, avoir par exemple un libéral, voire un vert, enfin j'y crois moins, mais plutôt un libéral, voilà. Donc là encore, vous voyez que l'institutionnalisation, etc., qui s'est instaurée, peut être remise en cause par le fait que on a beaucoup plus de diversité dans l'élection des parlementaires européens.
Beaucoup plus de diversité et puis une bataille aussi entre souverainistes qui s'annonce peut-être entre Marine Le Pen, Salvini et Viktor Orban qui devient un enjeu entre les différents groupes. Là aussi on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications ce matin, Christian Lequen, professeur, je rappelle, de sciences politiques à Sciences Po Paris, spécialiste de la politique étrangère et européenne de l'Union européenne. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente La Place Royale ou l'amoureux extravagant, mise en scène par Claudia Stavisky. Sur un air vif et irrévérencieux de Tu veux ou tu veux pas, Claudia Stavisky, entourée d'une troupe de jeunes comédiens, fait virevolter les souffles amoureux de la comédie de Corneille. La Place Royale ou l'amoureux extravagant, du 9 au 29 mai, au Théâtre des Célestins à Paris. Un partenariat France Culture.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF ? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains ? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé ? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Et à 6h57, ou presque, sur France Culture.
Allons-y.
Nous retrouvons les matins avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Mais bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et voilà, toujours aussi gaiement, puisque nous sommes le 8 mai, pourquoi ne pas parler d'Hitler ?
Mais c'est une excellente proposition, Xavier. Je suis désolé, évidemment, de franchir le point Godwin avant 7h du matin, mais il faut bien noter qu'Hitler vient d'effectuer une entrée fracassante dans la campagne des européennes, et c'était un peu cela qui vous manquait, j'en suis absolument certain, pour faire votre choix entre les différentes listes en présence. Alors, évoquer Hitler, ou plus généralement l'hitlérisme, comme vous le savez, c'est une excellente manière de s'assurer une très bonne visibilité sur les réseaux sociaux. Et comme nous sommes post-modernes, je pourrais même me risquer à dire en ce matin du 8 mai qu'Hitler fait le buzz. C'est ainsi que Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche, a expliqué que sa campagne se traduirait par, je cite, un blitzkrieg positif entre l'oxymore et la licence poétique. Et je ne sais pas, moi ça ressemble un peu à l'insurrection de la bonté. Nathalie Loiseau a par ailleurs promis un débarquement allié pour le 26 mai. Je précise qu'elle était à Caen, au mémorial de Caen. Mais du coup, un débarquement, cela pose le problème de savoir qui sont les nazis. Alors de l'autre côté, si j'ose dire, de l'autre côté de l'échiquier politique, le sympathique Christophe Chalençon, l'une des figures médiatiques des Gilets jaunes, lequel s'est lancé désormais dans la course aux européennes, a lui aussi filé la métaphore hitlérienne puisqu'il a comparé Emmanuel Macron à Adolf Hitler, voyant, je cite, une similitude dans la démarche des deux hommes, mais pas, je cite toujours Monsieur Chalençon, pas de similitude dans les buts respectifs poursuivis par Adolf Hitler et Emmanuel Macron. Toutefois, même si le dit Christophe Chalençon assume cette comparaison, il a souligné qu'il souhaitait en rester là dans ce genre de comparaison, ajoutant que si ces colistiers continuaient à filer ce type de métaphore, ils risquaient le carton rouge. Alors bien sûr, on peut se réjouir de cette convocation d'Hitler dans le débat politique. Je veux dire, on peut s'en réjouir si on se souvient de la remarque d'Amos Oz, lequel disait en substance que cela signifiait au moins qu'il y avait consensus sur le fait qu'Hitler était mauvais. Et alors bien sûr, si vous êtes encore indécis sur votre choix le jour du 26 mai, eh bien il reste encore 18 jours de campagne, Xavier. On a donc tout le temps de convoquer Staline, Pol Pot et Mussolini pour aider nos compatriotes à se faire une opinion.